premier étage. Je te mets en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelques poussins crient. Y'a du partout dans la tour. Y'a du partout dans la tour. Y'a du partout dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Sont commencés à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. Tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Tu as fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Tu as fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. L'Envolée, c'est quoi ? C'est une émission de radio et un journal qui se fait le relais des prisonniers qui luttent contre le sort qui leur est fait, en leur donnant la parole ainsi qu'à leurs proches. Et on essaye de lutter contre tous les lieux d'enfermement, que ce soit les prisons, les centres de rétention administrative ou encore les hôpitaux psychiatriques. Et donc, pour nous contacter, donc c'est toujours la même adresse au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Donc, il faut écrire fpp-l'envolée. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à contact@l'envolée. Et vous pouvez aussi nous appeler toute la semaine au 07 53 10 31 95. Et donc, ce soir, c'est une émission qu'on enregistre un peu à l'avance. Donc, on enregistre le 20 avril, le dimanche soir. Et donc, je ne vous donne pas le numéro de FPP parce que ça ne sert à rien d'essayer de nous appeler en direct.
Elle fait de la rétention d'informations.
C'est ça.
Félicitations. Censure.
Et donc, ce soir, on est quelques-unes autour de la table. Donc...
Après, pour nous écrire...
Ah, bah, je l'ai dit.
Ah, tu nous as dit Et les réseaux sociaux aussi, t'as
dit? Oui, j'ai dit.
Ah, pardon. Oh là là.
Faut arrêter de dormir pendant l'émission. Hein.
Moi qui essayais de... Voilà. Pardon.
Et bah donc, il y a Serge. Hein.
Le casse-couille. Bonjour à tous.
Il y a Rose.
Salut.
Il y a Doge au bocal. Et Louise qui vous salue. Alors ce soir, du coup, à l'émission, on va commencer par vous parler de l'actualité récente, puisque là, dans les Cette semaine, donc ces derniers jours, il y a eu plusieurs attaques sur des voitures de surveillants et sur des portes de prison, dont on va un peu vous reparler de ça et revenir là-dessus. Ensuite, on va lire deux lettres. Donc, on va lire une lettre de Fabrice et on va lire deux petites lettres d'Aurélie. Et en dernière partie d'émission, on va vous passer un enregistrement qui nous vient de l'émission anticarcérale La Courte Échelle qui part sur Radio Galère. Et donc, c'est un enregistrement de Nine qui revient sur qu'est-ce qui se passe pour elle à sa sortie de prison quand elle est prise en charge par une asso de réinsertion.
Qui se prennent sacrément pour des keufs.
Et qui font beaucoup de bises là-dessus.
C'est assez impressionnant. On voulait commencer par cette actualité qu'il y a eu cette semaine-là.
Ouais, donc c'était dans les quelques jours plutôt en première moitié de semaine, en fait, trois nuits de suite, il y a eu des voitures de surveillants qui ont été brûlées, des tirs de Kalachnikov sur la porte de la prison de Toulon et différents actes d'intimidation, notamment à des domiciles de surveillants ou alors encore des surveillants dont l'identité a été divulguée. Donc voilà, ça s'est passé à plusieurs endroits de France, c'est déjà dans la région d'Île-de-France, dans les Bouches-du-Rhône, donc à plusieurs endroits différents. Et donc, de ce qu'on comprend de tout ça dans la presse, le parquet semble vouloir associer à ces actions un texte de revendication donc, qui a été publié sur un canal Telegram qui s'appelle « Défense des droits des prisonniers français ». Et donc, il l'associe notamment parce que sur plusieurs lieux différents, les flics ont retrouvé des tags des DPF donc, qui renvoient à ce groupe-là.
Après, il y avait aussi des tags des DPM, tout ça. Enfin, il y avait pas mal de tags différents. Il y avait un peu de dans la presse. En tout cas, ils étaient un peu perdus, quoi.
Ouais, du coup, on n'a pas tout compris de ces tags-là, quoi.
Non, mais voilà. Et donc, ils font le lien avec un texte, sur lequel on reviendra peut-être un peu plus tard. Mais...
Ouais, en tout cas, c'est un texte qui a été trouvé sur ce canal Telegram et qui a en fait été relayé à plein d'endroits de la presse bourgeoise. Et notamment parce qu'en fait, il y a plein de journalistes qui ont trouvé le canal Telegram et qui se sont inscrits dessus. Donc, il y a un truc assez drôle.
Il n'était pas content, le chef du parquet national antiterroriste, là, parce qu'il a dit « Non, il y a plein de journaleux qui sont allés dessus. » Donc, c'était un peu compliqué de savoir qui était qui et quoi. Donc, ça, c'était un premier truc où il était là « Oh, non, mais on est perdu, quoi. »
Mais ce canal, depuis, il a été fermé sur décision de l'autorité judiciaire, mais il a été fermé en deux temps, en fait.
Ouais. Ça, c'est un truc qui est assez important sur la manière dont ça s'est passé, c'est que donc vraiment assez rapidement, donc ils ont parlé de ce canal et donc ils ont dit l'autorité judiciaire a demandé la suppression d'un certain nombre de messages. Et donc il y a eu un premier temps, il y a un certain nombre de messages qui ont été supprimés, notamment les messages qui pouvaient soit inciter à la violence, soit des messages qui révélaient l'identité de surveillants notamment, quoi. Mais ont été laissés deux textes sur lesquels on reviendra, et c'est seulement dans un second temps qu'a été supprimé intégralement tout le canal, quoi. Parce qu'il y avait aussi plein d'autres trucs dessus, il y avait en fait des témoignages qu'il y avait d'anciens prisonniers, notamment sur une chaîne un peu une grosse chaîne YouTube, Et donc pendant un certain temps, en fait, il y a eu deux étapes par rapport à la suppression, et tout ça s'est passé à la demande du parquet national antiterroriste.
Et d'ailleurs, du coup, c'est parce que là, on parle beaucoup du parquet national antiterroriste sans vraiment expliquer que du coup, c'est le parquet qui a été saisi de l'affaire et qui est donc un parquet donc spécial contre le terrorisme, et du coup il y a à la radio le procureur en chef du PNAT qui va dire explicitement que en fait le PNAT est saisi de cette affaire pour, et là je cite ce qu'il dit, avoir des moyens d'enquête centralisés. Et là il précise et donc il dit là c'est ses mots ensuite, il dit nous verrons ensuite comment les choses évoluent, cette qualification qui doit être cette qualification qui doit être retenue. Et en fait, lui, il utilise les termes de terroriste par intimidation, qui il dit lui-même que cette qualification n'existe pas dans la loi, mais que en fait, c'est une qualification qui est retenue au début de l'enquête et qui va permettre de donner beaucoup de moyens, qui va leur donner beaucoup de moyens pour faire l'enquête. Et qui ensuite il dit lui-même que ça pourra être qualifié par la suite, c'est pas forcément ce qui va être retenu, la qualification qui va être retenue, quoi. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette qualification de d'actes terroristes, elle leur donne des pouvoirs qui vont être décuplés, des moyens qui vont être décuplés, qui sont en fait les moyens du PNAT, les moyens entre guillemets, entre gros guillemets classiques, mais qui sont totalement différents de la police judiciaire par exemple, qui va donc permettre des gardes à vue de 120 heures, donc qui équivaut à quasiment 5 jours, et qui peuvent être gardes à vue qui peuvent être prolongées jusqu'à 144 heures avec l'autorisation d'un juge des libertés. Et aussi, ce qui est un peu spécifique dans le cadre du PNAT, c'est que, et de ces gardes à vue justement, c'est que en fait, les avocats, ils peuvent ne pas, intervenir que après 72 heures de garde à vue auprès de leur client. Et du coup, ça fait que pendant 72 heures, en fait, la personne ne peut pas avoir accès à un avocat et pas avoir accès à la préparation de sa défense et surtout ne voir personne, parce que aussi le fait de voir un avocat, ça permet de voir une autre personne que les flics, quoi. Et ça permet aussi une meilleure coordination entre tous leurs services de police, donc entre la DGSI, entre le service, les renseignements généraux. Et ils peuvent se filer les infos beaucoup plus facilement si c'est une enquête du PNAT que si c'est une autre enquête.
Et c'est important de rappeler ces pouvoirs un peu exceptionnels, ces pouvoirs d'enquête exceptionnels du PNAT, parce qu'en fait, c'est des moyens qui vont être étendus par la loi narcotrafique qui est en passe d'être votée à l'Assemblée nationale, puisque l'idée, c'est de créer un parquet spécifique pour la criminalité organisée, donc qu'ils appellent le PNACO, précisément sur le modèle du PNAT pour avoir ces moyens d'enquête sur de plus en plus d'affaires différentes.
Oui, ça, ils l'ont vraiment revendiqué comme ça, que c'était l'objectif de reproduire ces moyens. Et tout ce truc-là, c'est un peu... On en est à la même situation que tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas s'il y a réellement un lien entre ce texte et puis des gens et les actions, quoi. On ne sait pas non plus du tout qui a écrit ce texte. Le truc qu'on constate, c'est que ce texte, il fait vraiment écho à plein de lettres qu'on a reçues et ces derniers temps, mais aussi depuis pas mal de temps. Et donc, ça fait vraiment écho à tout ça. Et donc, c'est assez important de le souligner, mais on ne sait pas du tout qui l'a écrit. Est-ce que c'est les gens à l'intérieur? Est-ce que c'est les gens à l'extérieur? Est-ce que, on n'en sait rien. Néanmoins... ça va parler de plein de choses et plein de situations des réelles de ce qui se passe à l'intérieur des prisons françaises et qui sont d'autant plus décuplées qu'actuellement, il y a un surenfermement de la population française qui fait qu'on est maintenant à 83 000 prisonniers enfermés pour 62 000 places et donc avec des taux de suroccupation des cellules qui est faramineuse, où on peut mettre jusqu'à 4 personnes dans des cellules. Des gens qui dorment sur les matelas, tout ça. Enfin, Le truc, c'est que ce mouvement-là d'augmentation de la taille... il y a parallèlement une augmentation du nombre de places, de la construction de plus en plus de prisons et tout ça, mais l'augmentation du nombre de personnes enfermées, en ce moment, il est particulièrement impressionnant. C'est-à-dire que on enferme à peu près 500 personnes de plus par mois. Donc c'est vraiment, très très rapide comme augmentation. Et ça a des conséquences à l'intérieur qui sont extrêmement fortes et qui sont pour partie décrites à l'intérieur de ce texte.
Si je peux rajouter simplement, ce texte, il va simplement se faire l'écho de ce que raconte quotidiennement en fait à cette antenne, mais pas que en fait, de ce que se raconte quotidiennement quasiment tous les prisonniers en fait actuellement. C'est juste ce que pensent tous les prisonniers en fait aujourd'hui. Et justement,
on ne sait pas s'ils le pensent tous, mais en tout cas, c'est ce que pense une grande majorité et que ça va pouvoir prendre plein de formes différentes. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a des gens qui ont porté plainte. Enfin, il y a des gens qui vont nous écrire des lettres, mais il y a aussi des gens avec le soutien de l'OIP qui, cette semaine, en Vendée, la Roche-sur-Yon, la tôle de la Roche-sur-Yon, où c'est des prisonniers dans une tôle où il y a 112% d'occupation, et des rats et tout. Et donc, ils vont pouvoir dénoncer cette situation-là en passant par, un recours administratif. Voilà, ou comme je le disais, les lettres qu'on nous écrit, quoi.
Et c'est aussi une situation qui est régulièrement dénoncée, même par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. En fait, ce qui est décrit dans ce texte, c'est des choses que tout le monde dénonce, pas seulement les prisonniers, aussi des assos et des institutions comme l'OIP et la CGLPL, quoi.
Et donc nous, ça nous semble important de continuer à faire écho, et puis aussi de ramener parfois un peu une perspective historique.
Pour spécifier, du coup, ce texte, il dénonce les conditions d'enfermement, le prix des cabines, la violence des surveillants, la réduction des promenades et la suppression des activités décidées par Darmanin.
Peut-être pour prendre un peu chacun des points, parler un peu du prix des cabines, quoi, à l'intérieur. Voilà, donc le prix des cabines, là, on a reçu quand même pas mal de lettres. On en a particulièrement fait écho, nous, quand on a parlé des prisonniers kanaks qui ont été déportés.
Parce que le prix est beaucoup plus cher pour appeler quand on appelle en dehors de la France métropolitaine, quoi. Donc on en a particulièrement parlé pour les gens qui, pour tous les prisonniers qui ont été déportés depuis la Kanaky, mais aussi parfois depuis la Guadeloupe et les Antilles. Et puis après, c'est la même chose pour les gens qui veulent appeler leur MIFA, qui sont à l'étranger, quoi.
Ouais, donc ça, c'est vraiment un truc, voilà. Et l'autre truc qui est complètement ouf, c'est que maintenant, aujourd'hui, en fait, pour les gens qui ont vécu dans les années 90, en fait, tu te retrouves à payer ce que tu payais à l'époque quand tu devais appeler un téléphone portable, et que c'était faramineux avec des trucs où, comme c'est décrit dans le texte, tu peux payer parfois 1 € la minute et tout, quoi. Ça, c'était des trucs importants, quoi, qu'ont été relayés, quoi.
Il y a aussi la suppression des activités qui a été décidée récemment par Darmanin, dont on a plusieurs fois parlé à l'antenne avec des lettres qui nous expliquaient soit d'un côté que des activités avaient été supprimées et donc étaient plus disponibles, soit de l'autre côté que ça donnait des arguments aux matons pour pousser pour la suppression des activités, parce qu'en fait, c'était notamment Kémy qui l'expliquait bien, en fait, moins d'activités pour les matons, ça veut dire moins de taf. Et par rapport au texte là dont on parle, un truc qui est dit dedans, c'est que ça porte atteinte à la réinsertion des détenus, et ça c'est aussi un vrai truc dont parfois on se rend pas bien compte à l'extérieur, c'est que la participation à des activités, ça a son rôle dans la demande d'aménagement de peine, dans la demande des remises de peine, et donc le fait qu'il y ait moins d'activités disponibles pour les prisonniers, et bien en fait ça peut participer à leur rajouter des semaines, des mois, des années de prison en plus, quoi.
Et ça permet aussi de distinguer les bons et les mauvais détenus, ceux qui seraient du coup réinsérables, enfin ceux qu'on pourrait réinsérer. Ça permet de faire un tri comme le travail, en fait, entre les détenus qui pourraient avoir plus facilement des aménagements et ceux qui, par exemple, DPS, ou c'est des choses que les personnes avec qui on correspond nous racontent beaucoup, en fait, le fait de ne pas pouvoir travailler ou avoir le droit à des activités parce que tu es un détenu particulièrement surveillé, et qui va faire ensuite après qu'il y a un engrenage qui fait que tu ne vas pas pouvoir sortir plus tôt, avoir d'aménagement, hein, de permis de visite, enfin voilà, quoi.
Et sur les réductions des promenades, c'est des luttes régulières des prisonniers et des prisonnières. C'était en 2016, notamment à les prisonnières de la MAF de Fleury qui avaient lutté contre la réduction des promenades que l'administration de Fleury, en fait, avait utilisé la mise en place d'un logiciel qui s'appelait Genesis pour supprimer des promenades. On n'a toujours pas compris le lien près de 10 ans après, mais voilà. Et donc il y avait eu beaucoup d'écho à l'extérieur, et de relais de cette lutte. Et ça a été aussi un des trucs qui a été hyper important lors du premier confinement et des confinements d'après, où en fait on a toujours réduit de manière très forte les promenades et tout. Les promenades, c'est vraiment un lieu essentiel de la sociabilité en tôle, c'est aussi l'un des trucs qu'on va particulièrement supprimer lorsqu'on te fout à l'isolement ou quoi. C'est-à-dire que à l'isolement, tu vas être enfermé, tu vas pouvoir voir personne, et tu vas avoir ta promenade à toi dans ce qu'ils appellent une cour de promenade, qui est absolument pas en fait une cour de promenade, qui est juste une cellule à peine plus grande, c'est-à-dire qu'on passe de 9 mètres carrés à 16 mètres carrés, avec des barbelés au-dessus de ta tête, au lieu que ça soit un sol, quoi. Donc ça c'est un truc très très récurrent, et on en revient toujours à cette même chose en fait, qui est que les promenades c'est du taf pour les surveillants qui veulent qu'il y ait le minimum de mouvement à l'intérieur. C'est aussi le fait de la surpopulation qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait s'ils sont en train de réduire les promenades et tout ça, c'est qu'en fait dans une cour de promenade tu peux pas foutre trop de gens en même temps et tout. Je pense notamment à Fresnes, voilà, qui sont vraiment des petites cours de promenade et tout. Et donc, avant, quand tu avais 2h30 de promenade, voilà, et que tu faisais un round de promenade par demi-journée, là maintenant, quand tu as une surpopulation, alors à Fresnes, je ne sais pas à combien tu es, mais dans d'autres prisons, tu arrives facilement à 200%, et bah, tu es obligé de scinder dans la journée, de faire deux mouvements, et donc tu es obligé de réduire. C'est eux qui réduisent et qui font ce choix-là de réduire et tout, parce qu'il faut qu'il y ait tout le monde qui soit réenfermé avant qu'eux, ils puissent aller manger avec leurs femmes et enfants. Voilà.
Et un autre truc encore dont le texte parle, c'est la violence systémique de la prison que nous, on aborde tout le temps à cette antenne, à savoir qu'il y a de la violence des matons envers les prisonniers qui est... qui est régulière et qui est systémique, et qu'il y a des gens qui se font tabasser à l'écart des caméras, particulièrement au mitard, au quartier d'isolement et au quartier d'isolement, au quartier arrivant aussi parfois, et donc ça aborde cette question des morts suspectes en prison, dont on parle super souvent à l'antenne, quoi.
Et voilà, donc ce texte, il fait vraiment, vraiment écho à plein de choses qu'on reçoit et tout ça, et il faut continuer à relayer cette parole, parce que c'est une parole qui est censurée généralement par l'administration pénitentiaire et tout ça. Et donc en ce moment, en tout cas, les conditions de détention sont vraiment se durcivent de manière très 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 forte, voilà, et donc il faut continuer à relayer la parole de l'intérieur et tout.
Justement, nous, ce qu'on craint aussi, c'est que dans ce contexte, la répression des prisonniers et des prisonnières et de leurs proches, elle soit d'autant plus importante, notamment avec le fait que, là, c'est déjà ce qu'ils annoncent, en fait, d'intensifier les fouilles de cellules pour aller trouver des tels. Aussi, là, c'est un peu des infos. On sait que la centrale des câbles téléphoniques, elle a pas fonctionné avant-hier, donc... vendredi, et que que ça a été rétabli depuis, mais en tout cas que on sait comment ils fonctionnent sur ce truc de punition collective, de il se passe un truc, un événement, et ensuite ils vont punir l'ensemble des 86 000 prisonniers, et du coup c'est un peu, on sait pas grand chose de ce qui va se passer, mais c'est surtout qu'on craint ces conséquences là sur les prisonniers et les prisonnières, quoi.
C'est un peu comme ce qu'on avait dit suite à la suppression des activités par Darmanin, en fait, le temps que la parole de l'intérieur elle sorte, elle nous parvienne, et qu'on ait un truc un peu à dire. En fait, c'est long, et donc, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça se passe à l'intérieur. Mais on sait que les matons et l'administration, de manière générale, ils sont un peu accoutumés de la punition collective quand il se passe quelque chose, quoi.
Ouais, carrément, que ça soit à travers les blocages ou autres. En fait, ils ont vraiment particulièrement pour habitude de punir l'intégralité des prisonniers. Et ça, c'est quelque chose qu'on craint, voilà. Et probablement qu'on aura des lettres qui nous viendront de l'intérieur et qui nous raconteront et nous expliqueront comment ça se passe en ce moment, parce que pour l'instant, on ne sait pas précisément qu'est-ce que ça a transformé, bien que malheureusement, on se doute bien que ça a eu des impacts pour les gens à l'intérieur, en plus de tout ce qu'on vous a décrit précédemment.
Et que ça peut continuer à en avoir, puisque c'est aussi quand il se passe quelque chose à l'extérieur, ou à l'intérieur aussi, mais quand il se passe quelque chose de ce genre-là, que les matons vont essayer d'avancer, les syndicats de matons vont essayer d'avancer des revendications qui, en général, ne sont pas très favorables aux prisonniers.
Ouais, c'est vraiment dans ces moments-là où, en tout cas, ils ont des espaces qui leur sont donnés, voilà. Et disons que là, en ce moment, ce qui est clair, c'est que la question de l'application simplement d'un minimum de droits et en tout cas d'éviter la torture blanche ou ce genre de choses, c'est pas du tout pris en compte. Voilà, ça a rarement été le cas et tout. Mais là, particulièrement en ce moment, ça fait partie des trucs qu'on a quand même cherché à analyser sur le fait que l'arrivée d'un ministre de l'Intérieur comme ministre de la Justice, en fait, ça transforme des choses sur les conditions de vie à l'intérieur, quoi.
Ouais, donc voilà, du coup, bah, on va continuer à lire des lettres. Et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que la réalité carcérale dont on parle, en fait, en ce moment, c'est toujours un peu, ça a toujours été un peu le cas ces dernières années, mais particulièrement en ce moment, il y a un truc qui est de plus en plus dur, volontairement, enfin vraiment, il y a un truc d'avancer très très vite sur le fait de durcir les conditions de détention, et qu'elle concerne de plus en plus de monde aussi hyper vite. Et c'est quand même vraiment les deux trucs très très flippants en ce moment, quoi.
Ouais, parce qu'il faut quand même bien se dire que si, en fait, dans un établissement, on ferme des places pour faire des prisons de plus en plus sécuritaires, ça veut dire qu'en fait, on grappille toujours des places, et en plus, on va mettre on va enfermer toujours plus de gens en détention, quoi. Donc on va continuer avec un peu de musique pour après lire les lettres.
Balance un beat, on le saigne. On sait que tu sais que c'est comme ça qu'on le fait. Je rappe tellement excellent, tu ressens les accents circonflexes. T'es circonspect, pourtant c'est pas si complexe. Y'a pas d'explication de texte, mais je vais te remettre dans le contexte. Roule un ouinche de tèche pendant que les deux t'essèchent. Wesh les refs. Le temps passe vite, faut qu'on se dépêche. J'écris à l'encre de sèche mes larmes. Et quand je prends un mic, on me dit baisse cette arme. J'envoie le nec plus ultra, le nectar pour les pulcras. Quand je les écoute, je me demande si on pratique le même art. Ça, on le saura plus tard. Alors chaude dans la foule comme un ultra. Et quand ça partira en couille, c'est moi qu'on inculpera. Le juge jugera sur les dires d'un proc qu'on insultera. J'ai planté ma graine, mon arbre poussera. Leur manque quelque chose, ira pour pécho quelques doses. Tester quelques poses, Kama Sutra. Pour mes lèvres tôt, mes couches tard. Mes louves tôt qui se foutent du ch'tard. On a touché le fond comme Cousteau. Et on gratte encore avec le manche du couteau. On grandit comme on peut contre le tronc du ghetto. Des feuilles rouges criminelles, ils ont scié les branches du boulot. Et je glisse sur cette vie comme une coupe d'eau sur une vitre. Je leur montrerai ce qu'ils bossent quand j'aurai couché ma petite. Quand je sortirai mon 12 titre, ils me suceront la bite. Mais pour le moment, leur vichine bloque l'entrée des artistes. Quoi, me raconte pas ta vie, on connaît ces sales histoires. Il m'a fallu 400 défaites pour apprécier la victoire. Tant mieux, c'est dans l'échec que je trouve cet inspire noir moite. On essaie de se réchauffer le cœur, serré dans des tests froides. Soit à la recherche du bonheur, comme un toxicomane. Et on mourra près du but comme un assoiffé. Devant une source d'eau potable, 93 c'est Gotham. Des chauves-souris, des clowns tristes qui souhaitent une vie confortable. Jugé infréquentable, insortable. Casse ta puce, jette ton portable. Au micro, je catapule comme Michael Jordan. Je sais pas pourquoi quand je pose, j'impose le silence. Peut-être parce que les jeunes de chez moi brillent s'éteignent comme des étoiles filantes. Que quand je te crache au visage, cette haine elle est tellement criante. Qu'elle en devient douce et apaisante. Tous en tonneau sur cette descente. Ma vie est banale, poteau, comme un suicide au mois de décembre. L'esprit obscurci par cette drogue douce, insomniaque dépressif. Je m'écrase sur cette scène comme un bateau sur les récifs. Je sais pas si je les dégomme tous, mais j'ai pas la fraise d'instru comme j'ai pu. Et des textes comme ça, ça existe plus.
Vous êtes toujours à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Du coup, je redonne rapidement les contacts pour nous écrire. C'est fpp-l'envolée, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Pour nous appeler toute la semaine, c'est au 07 53 10 31 95. Donc ce soir, ça ne sert à rien de nous appeler en direct parce qu'on enregistre l'émission le 20 avril, dimanche soir, quelques jours avant sa diffusion. Et vous pouvez nous contacter sur Instagram et sur Twitter, et aussi par mail à contact@l'envolée.net. Bah, du coup, on va lire deux lettres, et on va commencer par une lettre de Fabrice, qui nous écrit depuis Vendin-le-Vieil le 24 mars 2025. « Salut, j'espère que vous allez bien. Là, il est 3h20 du matin, et je pensais au 16 juin 2017, quand j'ai bloqué la douche de Saint-Maur à l'isolement avec un pic artisanal pendant 7 heures, et que la directrice a appelé les Eris en renfort et qu'elle leur a dit « Tuez-le si vous pouvez ». Ils ont ouvert la porte de la douche et ils m'ont balancé une première grenade qui a pété sur mon visage, où j'ai perdu l'audition et je suis devenu sourd. Et par la suite, ils ont balancé une deuxième grenade qui a pété dans mon dos. Et ensuite, les Eris sont rentrés et m'ont frappé avec une matraque et du gaz et m'ont traîné au cachot rempli de sang. Et ça, je ne pourrai jamais oublier ça. Et des fois, je me réveille avec des bruits de détonation et je revis la scène, voilà quoi. Mais grâce à Dieu, l'avocat après 7 ans m'a dit « Enfin, on a tout le dossier complet ». Après toutes ces années de souffrance et de douleur, on peut porter plainte devant un juge d'instruction qui décidera d'envoyer les Eris devant une cour criminelle. Et je garde espoir, sachez-le. Et c'est pour ça, je dis, prenez soin des gens que vous aimez et de votre famille pendant qu'ils sont vivants. Et profitez de la vie, parce que moi, j'ai déjà passé à 44 ans, 28 ans derrière les barreaux. Et oui, c'est ma vie. Je n'ai réalisé aucun de mes rêves, être boxeur pro, avoir des enfants et mon propre restaurant. Voilà quoi, bon, je m'arrête là. Allez, prenez soin de vous et de vos proches, que le soleil brille pour vous, tous les amis. L'ami Papillon.
Bah, merci beaucoup Fabrice de ta lettre. C'est une lettre qui touche, parce qu'on sent que c'est quand même rude, et on sait que les nuits peuvent être souvent particulièrement longues. Maintenant, tu n'as plus exactement un régime d'isolement, mais c'est tout comme, quoi. Enfin, c'est pas exactement le régime d'isolement, mais c'est tout comme. Voilà. Et bah, tu reviens sur un moment intense de répression de l'administration pénitentiaire, quoi. Donc, peut-être bah, déjà, pour rappeler les Eris, qu'est-ce que c'est ? Les Eris, ce qui devait être le GIGN de la prison, en réalité, c'est surtout les CRS de la prison, voilà, qui ont été créés par Didier Lallemand, qui maintenant est devenu malheureusement assez célèbre pour sa répression, notamment des Gilets jaunes. Et donc, ouais, bah, c'est ce que tu racontes, quoi. T'as fait un blocage et tout. Parce que je me souviens plus à l'époque quelle était la raison. Et donc
la plupart des moments où Fabrice a demandé des choses, c'était quand même surtout de retourner en Guadeloupe auprès de ses proches, dont il est éloigné depuis 2011, je crois.
Ouais. Et voilà, à chaque fois. À chaque fois, même quand son frère vient de Guadeloupe, parfois on va le changer de tôle au dernier moment et tout ça pour qu'il puisse pas avoir de parloir et ce genre de choses. Donc voilà. Et donc là, dans une douche qui fait même pas 2 mètres carrés, quoi. Voilà. C'est les Eris vont envoyer deux grenades de désencerclement, quoi. Donc on se doute bien que ça peut être qualifié comme une tentative d'homicide, quoi. Voilà, parce que en fait l'impact, la violence du blast de ces grenades, c'était une des grenades assourdissantes, si mes souvenirs sont bons. C'est absolument monstrueux, quoi. Et tout. Et ça fait longtemps que Fabrice était en lutte à l'intérieur et qu'il a toujours été réprimé de manière hyper féroce par l'administration pénitentiaire.
Ouais. Puis justement, en fait, dans cette lettre, il revient aussi sur les 7 ans du coup qu'il a fallu en fait pour avoir la possibilité en fait de pouvoir mettre les matons devant ce qu'ils ont fait et tout, et que en fait ces 7 ans d'attente, c'est 7 ans genre hyper long, et que en fait là c'est le fait de pouvoir enfin porter plainte contre eux, c'est aussi une manière pour lui de se reconstruire et d'arriver à trouver du sens sur le fait qu'il ait failli frôler la mort à ce moment-là. Et moi, je voulais juste revenir aussi sur ces temps d'attente. Ils montrent aussi qu'est-ce que, en fait, la difficulté, en fait, pour les prisonniers, en fait, de faire sortir la parole et d'arriver à trouver une forme de justice, de sens à ce qu'ils ont vécu par rapport aux violences pénitentiaires et tout. Et ça me fait un peu écho à la lettre de Kémy qu'on a reçue pour la journée contre les violences d'État du 14 mars, où lui il raconte aussi c'est que les matons ont essayé de le pendre, et puis voilà les violences pénitentiaires qu'il a vécues à l'intérieur. Et en fait, l'histoire de Fabrice, elle fait ce même écho-là, en fait, de tout ce temps et toute cette détermination qu'il faut, en fait, pour montrer, en fait, et faire valoir ce que tu as vécu. Et c'est un peu une différence qu'on voit dans le cadre des violences pénitentiaires. En fait, il faut déjà faire sortir la parole, et ensuite arriver à porter plainte, c'est une galère, trouver un avocat. Ça demande une détermination sans faille pour simplement faire reconnaître ce qu'on a vécu, quoi.
Ouais, et là, juste aussi pour expliquer cette histoire de procédure dont parle Fabrice, en fait, il y a deux procédures en cours, parce que Fabrice donc veut porter plainte contre les matons qui, en fait, auraient très bien pu le tuer en lançant cette grenade, hein, parce que en fait, il y en a des gens qui sont morts avec une grenade qui ont éclaté juste à côté de leur visage, enfin de leur tête ou quoi, enfin ça peut arriver quoi. Mais en fait, il y a aussi la procédure des matons contre lui, puisque du coup, les matons ont porté plainte pour tentative d'homicide contre Fabrice quoi, comme c'était pas trop eux qui avaient lancé la grenade quoi. Pardon.
Non, et puis donc un blocage, ça reste un blocage, quoi. Enfin, donc il y a un moment, c'est quand même effarant d'utiliser ce genre de réponse, surtout quand on sait comment ils sont. Enfin voilà, si vraiment la question c'était de réussir à le sortir, ils ont plein d'autres moyens que ceux-là de le faire. Et donc bon, bah ça c'est classique aussi des moyens de vengeance qu'a l'administration pénitentiaire et qui va généralement les utiliser et qui n'hésite pas à les utiliser quand elle en a les moyens quoi. Voilà, et donc voilà, après bah voilà, tout ce qu'on espère c'est que tu obtiennes ce que tu souhaites de la part des juges et tout. On n'oublie pas non plus qu'en fait ils sont, enfin voilà, comme le disait le chef du parquet national anti-terreau, on fait partie du même ministère, voilà, et donc bah ils savent quoi. Donc là-dessus, c'est toujours plus compliqué parce que tu remets en main. Enfin voilà, c'est juste que parfois ils suivent pas, voilà et tout. Mais néanmoins, ça va permettre que ça devienne public, voilà, et qu'on en entende parler. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument, je pense, essentiel dans ce que tu souhaites. Et voilà.
Oui, et juste pour expliquer, la dernière fois qu'on a lu une lettre de Fabrice, il parlait des insultes racistes des matons qu'il subissait quotidiennement à Vendin-le-Vieil. Et donc là, c'est une lettre qui date du 24 mars, je crois. Mais en fait, depuis, Fabrice a été transféré à la centrale de Valence. Et donc, bah, voilà, on espère que ça va quand même mieux se passer qu'à Vendin et que Fabrice va avoir un peu de répit et que les matons seront moins pires, quoi.
On passe à la seconde lettre, Aurélie.
Ouais, du coup, on va vous lire deux lettres d'Aurélie qui nous viennent toutes deux du CP de Rennes le 28 mars 2025 pour la première. Bonjour l'envolé, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai quitté Fresnes il y a une semaine. Je suis enfin à Rennes. Et enfin, la porte ouverte. Je revis. Par contre, le courrier n'a pas l'air de suivre. C'est le début. Ça va se mettre en place. Actuellement, au quartier Arrivante, j'attends mon affectation en division. Je vais pouvoir revoir ma famille, mes enfants, mes proches. Courage à tous, à très vite. Aurélie. Et une autre lettre du 1er avril 2025. Coucou à toute l'équipe de l'Envolée. Comme dit dans une précédente lettre, j'ai été transférée à Rennes. J'ai eu plein d'activités, rien de supprimé ici. Beaucoup de choix, activités, chorale, lecture, sport. J'ai fait des demandes de travail et d'activités. J'attends le retour. J'espère pouvoir travailler vite. J'ai des parties civiles, à indemniser. À Fresnes, à chaque fois qu'on sortait de la cellule, la surveillante d'étage avait des gants et nous palpait. À Vivonne, ce n'est pas le cas, ni à Rennes. Est-ce légal? Y a-t-il d'autres prisons où on pratique ces palpations à chaque sortie de cellule? À bientôt, Aurélie.
Bah merci beaucoup Aurélie pour tes deux lettres. Bah déjà, en fait, on est trop contents. Qu'Aurélie enfin été transférée à Rennes, donc voilà, c'est quand même une super nouvelle qui arrive après quand même une longue attente difficile au CNE, qui est toujours un moment très compliqué où t'es un peu en suspension sans savoir où tu vas être et tout, et en fait comme ils te préviennent pas du transfert, tu sais pas quand est-ce que cette attente va finir. Donc ça, c'est déjà en fait une super nouvelle qu'Aurélie soit enfin à Rennes, et en fait rien que ce truc de pouvoir revoir ses proches après plusieurs mois passés à Fresnes au CNE, bah c'est vraiment cool quoi.
Peut-être pour expliquer deux, trois petits bails dans la lettre, ce que porte ouverte, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Donc c'est un régime de détention qui s'appelle le régime porte ouverte, dans lequel en fait à l'intérieur de ta coursive, les cellules elles vont être ouvertes, et donc tu vas pouvoir passer d'une cellule à l'autre, avec, alors ça dépend des établissements, mais tu as le droit d'être à plusieurs, 3-4, dans une même cellule quoi. Donc ça fait que en fait tout au long de la journée, enfin voilà, donc à l'ouverture des portes le matin et puis refermeture le soir vers 17h, tu vas quand même pouvoir voir 2-3 personnes discuter et tout. Ça fait partie, en fait, comme on en parlait tout à l'heure pour les activités, d'une carotte, quoi. Enfin, parce que donc, il y a ce qu'on appelle les régimes différenciés. Et donc, à l'intérieur des centres pénitentiaires, et des CD, des centres de détention principalement, en fait, il va y avoir des régimes portes ouvertes et des régimes portes fermées. Et si on considère que tu t'es pas bien comporté, on va te refaire passer en régime porte fermée, c'est-à-dire le régime que tu as en maison d'arrêt, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vraiment un truc important parce que ben voilà, tu peux parfois cuisiner ensemble, tout ça, enfin voilà tous les trucs, et c'est avoir un peu de convivialité, quoi. Enfin, je sais pas c'est le bon terme, quoi. Mais en tout cas, tu peux voir des gens, voilà, tu peux marcher, tout ça, enfin voilà. Donc c'est quand même beaucoup plus simple, enfin c'est con, mais tu vois, t'es en rade de riz, bah, tu peux aller voir, voilà, c'est vraiment les trucs. Mais tu peux aussi jouer aux cartes toute la journée, enfin bon là, tous les trucs
et c'est tout le truc qui est pas pareil qu'en maison d'arrêt, quoi. Parce que là, Aurélie, elle a aussi passé beaucoup de temps avant d'attendre à Fresnes au CNE, elle a passé beaucoup de temps à attendre à la maison d'arrêt de Poitiers-Vivonne en n'ayant pas ces conditions de détention là. Donc en fait, c'est quand même mieux probablement que ce qu'elle a vécu pendant ces années à Poitiers-Vivonne. Et aussi, en fait, là, bah, on est quand même content d'apprendre qu'il y a des activités à Rennes. Et en fait, ça souligne un truc qu'on a essayé d'expliquer sur les activités, c'est qu'en fait, l'interdiction de Darmanin, elle n'est pas forcément suivie de la même manière partout, qu'elle va dépendre des rapports de force entre les matons et les prisonniers, et qu'en fait, ça reste au bon vouloir de l'administration pénitentiaire d'accorder ou pas certaines activités. Donc bah, là, on est quand même content pour Aurélie qu'elle soit dans une prison où manifestement, la direction a laissé pas mal d'activités se dérouler.
Ouais, c'est vraiment essentiel, quoi. Après, derrière, il y a toujours cette question du travail qui est un truc essentiel pour pouvoir avoir un peu de thunes et autres avec les formations. Et donc ça, on se doute bien que doit y avoir un peu d'attente et tout, voilà. Et donc là, on espère que pareil, ça va aller vite pour le travail. Mais on imagine que là, c'est sûrement un peu plus compliqué, quoi. Et voilà, n'hésite pas à nous raconter comment ça se passe, les activités, voilà, et même tu vois les interactions avec les gens et tout, parce que ça arrive aussi assez régulièrement que on prenne pas très très au sérieux les gens. Les prisonniers ou les prisonnières. Voilà. Donc, n'hésite pas à nous raconter tout ça, quoi.
Ouais. Et un autre truc, bah, c'est sur le courrier qui ne suit pas. En fait, c'est très fréquent. Des fois, on est transféré et le courrier suit. Mais des fois aussi, ça ne suit pas du tout. Et même en laissant les proches en galère de savoir où sont les gens, le temps que le transfert se fasse, que la personne puisse se retourner et écrire. Et voilà. Sinon, moi, sur les palpations, je ne sais pas.
Non, après, c'est assez... en fait, vraiment, ça dépend aussi pas mal des tôles, quoi. Enfin, c'est quand même toujours les mêmes trucs. C'est-à-dire que... être palpé chaque fois que tu sors de la cellule, je pense que déjà ils peuvent se permettre de le faire parce qu'il y a quand même moins de meufs au CNE qu'il y a ailleurs. Voilà. Après, on sait par exemple, c'était le cas au Baumettes à Marseille où il y avait des fouilles NU très très régulières qui étaient faites et tout ça avec des attouchements et même des viols et tout qui ont été dénoncés par des prisonnières. Voilà. Donc de toute façon, il y a toujours ces moments-là où tu vas être, où les matons ils vont décider de te fouiller, te palper ou autre. Et de toute façon, ils ont quand même un pouvoir arbitraire là-dessus, comme sur les fouilles de cellules. Et donc, c'est un peu entre guillemets leur pouvoir. Et donc c'est eux qui décident. Et donc il y a pas, en tout cas, l'administration leur donne le droit de le faire, quoi.
Enfin, je pense qu'il faut quand même rappeler que les fouilles à nœuds, c'est illégal et que normalement... Enfin, du coup, j'avais... Enfin, c'est illégal. En fait, ils doivent donner une décision de fouille dérogatoire. Et c'est Enfin, moi, j'avais un peu demandé des éléments de réponse, justement, pour un peu répondre à Aurélie. Bon, ça apparaît un peu flou, mais en gros, ils doivent donner une décision de fouille dérogatoire et le prisonnier, le prisonnier peut en demander la copie. Mais en fait, c'est ce que tu racontes sur le pouvoir discrétionnaire des matons, c'est qu'en fait... on voit bien juste dans la phrase que je dis qu'en fait ça doit se passer pas, enfin jamais, quoi. Et que du coup, en fait, c'est très, très difficile de faire des recours sur des papiers que t'as pas, même s'ils sont soi-disant obligés de les donner, quoi. Voilà.
Donc on va continuer avec l'enregistrement de Nine.
Ouais, peut-être après un petit coup de musique. Voilà.
« On le 26 soir, on est 25 parce qu'il y en a 10 au ballon. Va chercher les outils à l'arrière du camion. Si à Oscar Fox dans le Toki, y'a pas de groupe, y'a des épées, de la marchandise sur une pookie. Nager profond, ça y est, je suis tellement. J'ai gagné la guerre de l'Atlantide, derrière des années de galère intensive. Joue pas le gang, faut pas le capone. Ferme ta gueule devant la daronne, mon cave, parle pas. Les petites chouraves, ça se bicrave à barre. C'était avant la vara. Sambou et Piagui le Mali, Tony et Fabio l'Italie. T'as la chance dans la chourave comme Momo où tu pars en prison pour que tu comme Rabi. Ah oui. Y'a Fouad qui se fait ses courses et Ibrahim qui balaye le Schmitt. On n'importe pas le conflit dans l'équipe, y'a même des juifs. Tout se règle avec des chiffres, tu me vois déjà dans le palace. Début, y'a que des ruines. Dans le bateau, y'a que des fuites. Ou le 26, y'a que des bites. 22, 24, 26, 28, bâtiment. La cité, où les gens c'est l'ennui. Tout d'un coup y'a une dinguerie. 22, 24, 26, 28, bâtiment. La cité, où les gens c'est l'ennui. Tout d'un coup y'a une dinguerie. Au fond de l'auto, le pilote c'est Scalo. On compte plus les barreaux, de la vie fait pas de cadeau. Soir la recette, les mecs comme Mayo. Comme les Grecs, croix de Chavo. Tu peux courir comme Naruto. Y'a des deux young, des Gattuso. C'est toi qui détiens le couteau. Pourquoi tu gueules comme la Rousseau? J'emballe la patate, elle fait des envieux. J'transforme des rétines en pneus. 4-4, 93 sans plaque falche. La nuit est noire, la lumière c'est les MacLight. On part en mission équipée. J'suis devant la cité avec Passy mes JP. Amri, Senza, Amor et Ripé. Sur le mauvais chemin, personne nous a guidés. 22, 24, 26, 28 bâtiments. La cité, où les gens c'est l'ennui. Tout d'un coup y'a une dinguerie. 22, 24, 26, 28 bâtiments. La cité, où les gens c'est l'ennui. D'un coup y'a une dingue. J'suis collé au mur, ces putes c'est des ventouses. On rentre, on prend tout. Y'a encore un gars qui cherche en drone. De la beuh, de la drogue, de savant fou. Toujours un truc dans le paletot. Trace de pneus, c'est le Merco à Fianso. Y'a personne qui a percé. Numéro 4 dans le tiercé. Numéro 6 dans le quintet. 22, 24, 26, 28 bâtiments. La cité, où les gens c'est l'ennui. D'un coup y'a une dinguerie. 22, 24, 26, 28 bâtiments. La cité, tous les jours c'est l'ennui. Tout d'un coup y'a une dingue.
Peut-être tu peux nous redire ce que c'est l'APCARS.
Ouais, exactement. Alors l'APCARS, c'est l'Association de Politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion Sociale. Voilà, donc une association qui se donne pour but la réinsertion. Sur le site internet, il y a des choses complètement débiles. Il y a écrit « éclairer pour donner du sens », des choses comme ça. « Prévenir la délinquance »,« découvrir la justice restaurative »,« faire des passerelles entre justice et société »,« mieux accompagner les victimes ». Voilà, des buts magnifiques, hein, des objectifs grandioses. Mais peut-être que Nine, tu vas pouvoir nous parler de la réalité, celle que tu vis et que tu as vécue aux côtés de cette association de réinsertion, du coup, si jamais ce que tu veux commencer à nous parler de ça.
Bien sûr. Alors, toutes les personnes qui passent dans les bureaux d'ESPI pour faire des aménagements de peine, on leur propose de passer par l'APCARS. L'APCARS, c'est un parallèle avec la justice. On est suivi par l'APCARS. On a un parcours en détention qui est en parallèle avec l'APCARS pour savoir si notre dossier sera accepté. On rencontre l'APCARS en permission à l'extérieur. On nous demande de remplir donc bien des formalités bien précises, d'être suivi si on sort avec eux toutes les semaines, faire leur suivi du logement, suivi de tous nos documents, etc. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils en réfèrent réellement à la justice. Et si ça ne rentre pas dans leur clou, mais ça se retourne contre nous, en fait. On a beau tout suivre de A à Z. Moi, tout ce que je leur demande, tout ce que j'ai eu fait toute seule, parce qu'au début, ils étaient là pour moi. Mais en fait, comme je sais me débrouiller toute seule, eh bien, je n'ai pas forcément eu besoin de eux, évidemment. Par contre, l'abus de pouvoir qu'ils ont sur nous, c'est énorme, quoi. Le fait d'être chez eux, d'avoir signé un contrat, parce que c'est 6 mois, renouvelable 6 mois, ou d'autres échéances sous les motifs pour lesquels l'APCARS peut vous suivre, parce qu'il y a énormément de branches sur lesquelles ils sont reliés avec la justice, ils sont vraiment une association politique criminelle. Ça veut dire que vous passiez, si vous avez un délit fait devant la justice auquel vous avez une condamnation, et que vous êtes placé dans les mains de l'APCARS, ça veut dire qu'ils vont vous démontrez par A plus B que c'est eux qui vont vous mettre les échéances à laquelle ils veulent vous voir, la pression pour savoir pour de quoi il en retourne, le suivi et le contrôle de vos lettres, le suivi de vos revenus, le suivi de tout. Ils payent le logement, il est payé, ils veulent rentrer chez vous. Mais en plus du logement payé de l'allocation logement, vous payez encore 10% de plus. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, de bout à bout, ça ne fonctionne pas.
Ouais,
quoi.
Ça s'appelle une association, mais en vrai, c'est surtout une délégation de pouvoir de l'État qui sert à continuer à accompagner et aussi fliquer les prisonniers qui sortent de prison. Quoi.
Mais oui, parce qu'en fait, chaque fois que vous recevez un courrier, il arrive à leur adresse. Il se permet d'ouvrir le courrier, de le prendre en photo, de vous l'envoyer par mail et autres. Donc, on a bien la preuve qu'il a ouvert. Ils ont un panneau, là, il y a 50 boîtes aux lettres dans leur bureau. Donc, ça veut dire qu'il y a 50 personnes qui sont passées chez l'APCAS directement. Moi, je ne comprends pas comment on peut ouvrir mon courrier de part et d'autre parce qu'on me dit que c'est une adresse à laquelle je peux recevoir mon courrier ou je dois aller récupérer mon courrier. Moi, en fait, le courrier qui a été ouvert, ben, je ne l'ai pas récupéré. Quoi. Par contre, je l'ai reçu par mail. Donc, ça veut bien dire qu'ils prennent le courrier, ils le lisent, ils le détruisent, mais vous le recevez par mail. Oui. Allez chercher l'erreur.
Ouais, peut-être que ce qu'on n'a pas trop précisé encore, c'est que c'est... Enfin, c'est une asso qui fait plein de trucs, mais en particulier, nous, les ressources qu'on a eues, les retours qu'on a eus, c'était sur des questions de logement. Et c'est pour ça que des certains tôles peuvent avoir besoin d'eux, c'est pour trouver un logement. Et du coup, ils se mettent comme intermédiaire entre le propriétaire et la personne qui va louer. Et du coup, ouais, faut, parmi les choses qu'ils font, il y a ça, et il faut quand même leur verser un loyer, tout comme un bailleur normal, sauf que c'est pas le bailleur et qu'en plus ils ont du contrôle sur ce que tu fais, quoi.
Mais oui, parce que en fait, le système il est bien rodé, ça dure depuis très très longtemps. Des propriétaires leur confient leur logement pour les louer aux personnes qui ont de la réinsertion sociale. Le criminel parce qu'on sort de détention. Mais l'histoire, c'est que de se faire rembourser la location de logement, c'est une chose, mais de faire payer la PAF. La participation aux frais de tous les mois, elle est de 10% de vos revenus. Ça fait quasiment que vous payez votre loyer complètement, quoi. Il n'y a pas de cadeau qui est fait nulle part. Et ce qui stipule pas, c'est que quand on vous fait un contrat, par exemple, de 6 mois pour vous faire votre aménagement de peine, votre conditionnel, votre, je sais pas, peu importe la raison pour laquelle vous vous retrouvez chez APCAS, de toute façon, vous y êtes passé par des juges, hein, parce que tout le monde est de part et d'autre en accord. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fois que vous allez chez APCAS, on vous fait signer. Pardon, si vous êtes pour une longue peine chez eux, parce que moi j'appelle ça même une peine, c'est la prolongation de votre détention. Vous sortez, vous dites que vous êtes libéré, mais en fait pas du tout, quoi. Parce que l'APCAS, vous mettez une telle pression, une telle sommation sur vous, il faut même retourner des personnes en détention, parce qu'ils disent que les détenus, parce que qu'on soit ou pas sous écrou, hein, on se fait appeler quand même des détenus, faut pas oublier. Puisqu'on est réinséré là-bas et aidé, soi-disant, à la réinsertion là-bas, c'est qu'on est encore détenu pour eux. Même si on a levé d'écrou, hein, même si on n'est plus sous écrou, on est détenu. Ça, c'est incroyable, mais ce n'est pas grave. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la pression qu'ils mettent aux personnes qui sortent, on se demandait pourquoi il y avait autant de récidives. Moi, j'ai rencontré ma SPIP régulièrement et on parlait de ça. Elle m'a dit directement que, effectivement, vous n'êtes pas la première personne qui rencontrait des soucis avec eux. Dans le sens où un monsieur que j'ai connu a eu aussi par la place des soucis. Donc je vois que de fil en aiguille, je me rends compte que, eh bien oui, ils ont plus que plusieurs personnes à leur, qui est monté de fil en aiguille et qu'ils ont mis un peu dans la merde, quoi. Bon, du jour au lendemain, ils m'ont demandé de quitter le logement alors qu'ils avaient un papier des juges pour leur dire, eh bien, vous devez lui prolonger 6 mois, 6 mois, et rebelote 6 mois, 6 mois. Non. Dès que j'ai terminé, ils m'ont dit non, vous devez partir le lendemain. J'ai dit pardon, je prends mes affaires, je vais à la rue. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Et après, ben, c'est la sommation du juge qui rappelle exactement pour lesquels je suis placé là-bas, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'ils permettent d'avoir un logement juste, enfin, ils donnent des logements juste après la peine. Et donc, ça c'est difficile de se passer d'eux parce que quand tu sors de prison, c'est difficile de faire un dossier pour trouver un appart puisque on n'a pas forcément de travail et tout. Genre c'est galère. Et eux ils proposent quelque chose, mais ils prennent quand même énormément d'argent puisqu'ils prennent ce que tu disais, c'est la CAF leur est directement versée plus 10% de tes revenus. Et dès que il y a ta levée d'écrou, en général ils n'hésitent pas à te mettre dehors très rapidement.
Ah ben oui, parce que moi, j'ai eu la phrase de dire, mais les SPIP à l'intérieur ont déjà des gens qui vont sortir, on a besoin du logement, quoi. Mais de ta gueule, ils ont rien à foutre, quoi. C'est ça qui pose problème. Je suis pas contre personne, hein, mais faites les choses avec les règles de l'art, quoi. Si moi, je passe devant des personnes qui me disent, ne vous inquiétez pas, quand vous sortez, vous êtes suivi, et après, vous recherchez un logement tranquillement, ok, je le fais. Mais si on me dit, du jour au lendemain, on me dit, ben tiens, demain, ça y est, on te suit plus, on n'a plus de dossier pour toi, on te prolonge pas de 6 mois comme prévu par les juges, on te prolonge de 1 mois. C'est-à-dire que dans 1 mois, tu es avec tes affaires dehors, quoi.
Parce que toi, tu t'y es retrouvé après le mètre, tu es resté combien de temps en tout?
À la place.
Ouais.
Un an.
Un an. Et après, ils ont exigé que tu partes, c'est ça?
Ah oui, ils m'ont convoqué, j'avais des examens médicaux, ils n'ont rien voulu savoir de mes examens médicaux. Et bien, la directrice m'a sommé de venir parce qu'elle disait que je ne justifie pas la raison pour laquelle je ne voulais pas aller à mon rendez-vous. C'est pas que je ne voulais pas y aller. J'avais un rendez-vous qui avait été pris bien en amont pour faire une radio des bronches, je suis asthmatique. Mais non, la santé ne prime pas, c'est eux qui priment. Donc la justice n'est pas finie, quoi. C'est-à-dire que vous payez votre peine, vous sortez, vous êtes suivi, et encore, eux, ils portent des ailes supplémentaires de juges, des avocats et compagnie, de nous appliquer encore autre chose. Alors que de base, c'est pas ça du tout. Quand on est reçu et qu'on fait les entretiens, etc., on vous explique pas ça. Mais après, évidemment, les anges se transforment en démons.
Peut-être, ouais, enfin, on peut revenir un peu sur ce que tu disais, qu'il y a du contrôle, genre, concrètement, c'est quoi, par exemple?
Ben les personnes, vous avez une éducatrice qui travaille à l'APCAS. Toute personne est suivie par un éducateur ou une éducatrice. Celle-là, toutes les semaines, elle vous donne un rendez-vous, elle ouvre son agenda, elle dit bon, on se voit quel jour? Lundi ou mardi? 9h ou 10h? Donc elle exige un rendez-vous là.
Ouais, c'est pas d'égal à égal, quoi.
Non. Elle ouvre son agenda, son emploi du temps, votre emploi du temps, elle n'a rien à faire, c'est pas son problème. Elle doit vous voir, remplir un dossier, suivre. Elle a un dossier devant vous, votre nom, votre prénom, ce que vous faites chaque semaine, et ça, et ça, et ça. Le contrôle de votre maison, le contrôle de ça, le contrôle de ça. Mais tu n'as pas à contrôler, quoi. Si je veux manger, si je veux boire de l'eau, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est pas ton problème. Si, je sais pas, on comprend pas. Vous touchez de l'argent pour un logement qu'on habite, donc on est locataire. Comment on peut me dire à moi, demain je peux rentrer avec les clés, je rentre chez vous parce que j'ai un truc à faire?
Oui, parce qu'ils font ça aussi.
Je suis locataire.
Ils peuvent se permettre de passer un peu quand ils veulent.
Tout à fait. À n'importe quel moment, ils n'avaient pas récupéré les clés du logement. Hein. J'y suis allée après. Rassurez-vous, ils sont rentrés. Ils ont déménagé ce qu'ils voulaient. Ils ont refait le logement pour y réinstaller quelqu'un dedans. Sans m'en informer. Donc, ils rentrent bien comme ils veulent. À plusieurs reprises, je sentais des odeurs bizarres dans le logement. Ben maintenant, ça se justifie. Je ne comprenais pas pourquoi on pouvait rentrer dans le logement. Mais maintenant, je comprends. On est pisté, on est suivi, on regarde si vous ne recevez pas quelqu'un, si vous, ce qu'il y a dans votre frigo. On piste tout. On sait exactement qu'est-ce qui se passe.
Il y a beaucoup de choses qui... Ouais. C'est un peu quoi, un organisme qui poursuit le contrôle, enfin qui prétend réinsérer les personnes, mais au final, qui les surveille plus qu'autre chose.
Mais ouais, c'est une association de politique criminelle. Ouais. Automatiquement, on ne peut pas avoir une association basique, banale. Non. Ils regardent le fric qu'ils font et pour se justifier leur salaire, ça c'est clair. Mais derrière, il ne faut pas oublier qu'ils font encore le flicage. C'est pas fini les flics là. On est encore derrière avec des flics, avec qui nous suivent, des personnes à qui on doit tout justifier. Mais c'est honteux quoi. C'est honteux.
Par exemple, quand on pense réinsertion, on pense aussi travail. Est-ce qu'ils vont soutenir le retour au travail ou un truc comme ça, la recherche d'emploi?
Alors, à la place, il y a un truc qui est comique, que personne ne sait. Moi, je le sais parce que je l'ai vécu. J'ai un jour, monsieur, il n'y avait pas de personne qui s'occupait de CIP. CIP, c'est conseillère d'insertion professionnelle. La conseillère d'insertion professionnelle, elle était là à un moment, et après, elle a changé de poste. Donc, il y en a un nouveau qui est arrivé. Un bon matin, j'ai un appel. Oui, bonjour madame, oui. Ce monsieur tel, venez au bureau à tel endroit. Monsieur, vous êtes qui? Même pas, elle s'est présentée. J'avais un ordre. Je ne sais pas d'où il sortait. L'accusé de Jupiter, je connais, mais lui, je ne crois pas qu'il sorte d'accusé de Jupiter. Et je me suis pointé au bureau, quoi. Là, par contre, j'ai dit, excusez-moi, vous avez parlé à qui exactement? Il y a marqué quoi sur mon front? Ils n'ont pas trop bien pris. Mais de base, c'est eux qui ont semé gars. Moi, tu sèmes ça, tu récoltes ça. Tu me parles gentiment, poliment, je te réponds gentiment, poliment. Je ne vois pas la raison pour laquelle il fallait être là à ce moment-là. Ils avaient récupéré un autre CIP, un conseiller d'association professionnelle, et ils voulaient me rencontrer pour savoir ce que je faisais comme projet professionnel. Mais moi, comme tout était déjà établi, le logement, ma profession, le travail, moi j'avais déjà tout fait toute seule. entre guillemets, ils m'ont accompagné pour me casser les pieds pour des rendez-vous chez eux. Hein. Tout le reste, ils le savent tous. Hein, parce qu'ils m'ont répété plusieurs fois. Ah, mais vous, on n'a rien à vous dire. Qu'est-ce que vous voulez que me dire?
Il faut qu'est-ce que vous voulez me dire de...
Tout à fait. Non. Mis à part rentrer chez moi, fouiller, ouvrir mes courriers, m'obliger à venir. Mais on est où, là? C'est plus de la réinsertion.
Et oui, et du coup, enfin... Tout ça, ça fait un peu de lien aussi avec ce que c'est, ça peut être les aménagements de peine, où souvent c'est une carotte un peu parce que tu te fais ressortir un peu avant et que. Il y a encore quelque chose une fois que tu es sorti, que tu as eu ton aménagement de peine, que tu penses que c'est fini, il y a encore eux qui peuvent un petit peu te surveiller et avoir un œil sur toi, quoi.
Mais en fait, ça se discute directement dans le bureau du juge, avec l'avocat et avec la personne dont il lui reste un petit peu de peine à faire. En fait, à ce jour, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas le droit de sortir en fin de peine. Ça n'existe plus. Donc, ils mettent les gens en placement extérieur. Un placement extérieur, ça exige donc le suivi que fait la PCAS ou la VDL ou d'autres personnes. Hein, il y en a plein d'associations. Mais ce qui ne va pas, c'est que quand vous avez un bracelet, vous êtes suivi par le boîtier et les gens qui s'occupent du bracelet. Quand vous avez un aménagement de peine, du reliquat de peine qui vous reste, on vous suit sur une partie. Si vous sortez avec un placement extérieur, comme la PCAS, on vous place là-bas pour vous suivre, pour savoir comment vous allez vous dépatouiller, etc. Soyez là pour nous aider. Mais en fait, aide-toi et le ciel t'aidera, quoi. Mais pas la PCAS t'aidera, quoi. C'est clair.
Oui, peut-être pour préciser, on ne sait pas. Enfin, la PCAS peut se charger des placements extérieurs, mais pas forcément. C'est aussi possible deux personnes qui sortent, qui se retrouvent logées par eux. Enfin, les deux existent. Mais en tout cas, une personne qui... c'est possible de se retrouver en placement extérieur et d'avoir comme bailleur APCARS, quoi.
Ok.
On avait un petit bout d'émission précédente qui résonne un peu avec ce qu'on est en train de dire. On se demandait si on pouvait le passer.
Ouais, carrément. C'était il y a quelques semaines. C'est un coup de gueule de Vivi qui parle justement de ces histoires, de ces galères de logement avec APCARS. Et ça dure quelques minutes, ça dure... On lance.
Parce que j'ai toujours dit, moi, au Beaumont, on est des condamnés à vie parce que quand les flics nous arrêtent, automatiquement, le palmarès, elles sortent de prison, elles cassent des parts, on ne cherche plus à comprendre. Et voilà la réinsertion. Moi, je vous la pose la question et je me pose encore la question. Et malgré que je me bats avec des associations, juste à côté de chez moi, j'ai un appartement, un studio libre.
Qui appartient à une association qui est censée faire ça.
Qui appartient à l'association L'Arcas. La 6 rue d'Arcole à Marseille. Ce logement, ce studio est libre depuis une semaine. Si vous faites une recherche de logement sur le bon coin, ils sont tous loués. C'est très rapide à louer.
Ils ne se dépêchent pas de les mettre à la disposition d'une personne qui sortante qui en aurait besoin. Quoi.
Qui en aurait besoin rapidement. Donc, ils ont des logements qui sont libres. Moi, celui-là, en face de chez moi, il est libre depuis une semaine.
Parce que toi, l'ARCAP, c'est aussi le bailleur de chez toi aussi.
Oui. Okay, ouais. Et où je me suis pris des coups de gueule avec eux, justement, parce que non, on ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas recevoir notre courrier à cette adresse-là. C'est bien l'ARCAP. Ça fouille les courriers, ça ouvre les courriers. Presque à la limite, je me pose à la limite de dire, mais est-ce qu'ils n'appellent pas les flics, de dire, rentre-le, quoi. On se pose la question, quoi. Donc, est-ce qu'ils vont bouger sur la réinsertion comme M. Darmanin demande? Eh bien, il faudrait peut-être faire le tri sur les SPIP, autant que dedans que dehors, dans la mesure que, déjà, sur Marseille, sur un logement HLM, il y a 7 ans d'attente.
Oui, mais enfin, je trouve que ce petit extrait, il est assez parlant de par rapport à ce qu'on était en train de dire. Par exemple, sur la question des logements qui peuvent être vides, comme tu disais toi, ils n'ont pas hésité à essayer de mettre quelqu'un alors que tu n'étais pas encore parti. Alors que des fois, ils vident des apparts et ils mettent du temps à les remplir. Peut-être, enfin, j'imagine bien que ils s'en foutent, quoi, les prisonniers, ils envoient placer plein, ils les humanisent pas trop et ils se sentent un peu supérieurs, quoi, et ils ont l'impression de rendre service et du coup ils n'hésitent pas à dégager les gens alors que ça va être vite derrière ou alors à pas remplir.
Moi, pour moi, je sais que... on m'a dit directement, et on verra, je pense pas que ce soit tout à fait la vérité, mais bon, c'est leur vérité, en tous les cas, c'est leur vérité. Enfin, bon, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit qu'il fallait que je parle de logement parce qu'ils avaient besoin du logement rapidement pour une personne, parce que les SPIP de l'intérieur les avaient oppressés parce qu'il y avait des gens qui étaient prévus pour sortir et qu'il fallait qu'ils récupèrent mon logement. Alors, je ne comprends pas comment des juges leur disent de me garder dans le logement et que des SPIP de l'intérieur leur disent qu'il leur faut le logement pour quelqu'un. Alors que les SPIP de l'intérieur ne gèrent pas les appartements que l'APCAS gère pour eux-mêmes. Il aurait fallu que les personnes soient suivies par l'APCAS, qu'elles sortent, qu'elles passent devant les juges pour faire un aménagement de peine, pour être suivies. Comment on peut m'annoncer que c'est la SPIP de l'intérieur qui les presse faire sortir une personne? Mais non. Si la personne n'a pas été suivie par l'APCAS et acceptée par l'APCAS et passe un aménagement de peine, elle n'est pas prévue. Donc du pipeau, on en rencontre à gogo. Ils disent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Ça m'est complètement égal. Hein. La réplique est facile, il n'y a pas de souci. Hein. Des faux pas, ils en ont fait énormément. Moi, personnellement, je savais très bien que ce qui s'est passé, que ça va se retrouver évidemment au tribunal, parce que ce n'est pas tout à fait normal hein, du tout. Mais après, il ne faut pas faire les choses comme ils les font. Enfin, personnellement, je ne sais pas, ça doit marcher sur des personnes si ils continuent à faire les mêmes conneries, à mon avis, parce que là, ce n'est pas normal. Et pour en revenir à l'histoire de... Je pense que c'est important de le dire. Pour en revenir à l'histoire de refaire tomber en détention. Moi, je suis en réunion chez moi, tranquillement. Et j'ai la demoiselle qui me suit, qui me dit, mais vous savez que si jamais vous répondez pas à une convocation, ou si vous, on voit que je vous appelle deux fois, vous répondez pas et tout, je peux faire un signalement et je peux vous faire réincarcérer. Hein. Je lui dis comment? J'ai dit, moi, je suis arrivé à la fin de mon placement extérieur. Il me reste quoi, 15 jours, 3 semaines? Je suis en train de déménager. Et elle m'annonce comme ça, de but en blanc, devant ma table, que chez moi, elle peut prendre le téléphone, m'appeler et me refaire réincarcérer. J'ose pas vous dire comment je lui ai demandé de décanter de la maison directement. Quoi. Je lui ai montré le chemin de la sortie. C'était pour elle plus judicieux, à mon avis, parce qu'il valait mieux que je garde mon calme. Parce que cette phrase-là, jamais je l'oublierai. Quoi. Je l'ai répétée à plusieurs reprises, même à des personnes qui me suivent. Hein. Je lui ai dit, mais comment on peut parler comme ça à une personne qui a fait une arrestation? Moi, je sais pas, je ne rate rien. Je bosse, j'ai trouvé mon logement, j'ai tout ce que j'ai à faire. Et j'ai quand même des personnes, à 15 jours de la fin du placement, qui me disent, mais on peut parler au téléphone, appeler et vous faire replacer à l'intérieur. Quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou?
Ouais, une musée.
Ah mais grave, ouais, la peu... pression encore.
Ouais, exactement.
Ça ressemble un peu à l'intérieur quoi, où quand t'es face à un maton, il peut te mettre un CRI quand il veut et ça va te tomber dessus et ta parole contre la sienne sera toujours lui qui gagne.
Ben, elle a bu le pouvoir.
J'ai l'impression qu'avec voilà, avec cette situation-là, même quand t'es à l'extérieur, que t'es plus vraiment un prisonnier, en vrai dans les faits tu restes un prisonnier quand même et tu peux quand même retomber facilement et que la justice accordera jamais autant d'importance à ta parole qu'au maton en face ou qu'aux salariés en face.
Ouais, c'est ça. Voilà. Eh ben, Vivi dit se battre avec les assos. Dans l'extrait qu'on a entendu, c'est toujours se battre. Quoi. Se battre en prison, se battre après.
Enfin, moi, j'employais pas se battre. Je disais, mais la vie est un long combat. Hein. Dehors, c'est oui. sûr. Mais alors, dedans, c'est pire. Hein. Là, dedans, on ne devait pas combattant, on devait guerrier. Donc, tout va bien.
Voilà.
La vie est un long combat, certes, dehors. Okay. Mais quand on rentre, il faut faire face à tout le monde. Quoi.
Ouais.
Et c'est là le problème. Du coup, si vous réfléchissez bien, quand vous devenez des guerriers, ça veut dire quoi? Que vous êtes seul face à tous. N'oubliez pas. Il vous en faut du cran. Hein. Bon, je ne parle pas dans mes sous mes draps. Hein. Je fais face à tout le monde. Hein. Et je ne veux pas savoir. Hein. Blanc, c'est blanc ou c'est rouge. Hein. S'ils me disent rose, je dis mais non, ça ne marche pas comme ça.
Il n'y a pas d'arrangement.
Et il n'y a surtout pas d'arrangement. Quoi. Encore pire.
Yeah. Hein.
Mais oui. Même si, tout à l'heure, je disais. Des fois, ils virent les personnes, ils ne remplacent pas derrière. Mais bon, évidemment, même si c'est pour faire de la place, ça ne tient pas quand même. Ce n'est pas possible de faire sortir des personnes et de les mettre dans des logements qui sont hyper précaires et où tu risques de te faire virer. Et donc, évidemment, après, tu es en galère de rue. Peut-être tu vas retomber bientôt. On sait que c'est difficile dehors, même à Marseille en ce moment, de trouver des logements quand t'as une situation privilégiée, que t'es blanc, que t'as un salaire, que t'as des documents pour justifier ta situation. Alors évidemment que c'est hyper dur pour les sortants de tôle qui ont été désinsérés par la prison et qui du coup n'ont pas un bon dossier Et l'APCARS ne pallie absolument pas à cette galère. Là, Vivi, elle le dit à la fin du petit extrait qu'il y a 7 ans d'attente pour trouver des HLM. Voilà quoi.
Il y a une chose sur laquelle il faut revenir quand même, c'est important. Quand vous êtes en détention, vous vivez une certaine pression. Dans votre tête, vous vivez d'une manière. Et ça, personne ne le dit, mais alors que c'est la réalité. Quand vous sortez, il vous faut du temps pour reprendre à boire, à manger, à respirer, à communiquer avec les autres. Il vous faut du temps pour revenir sur la scène comme tout le monde, comme vous, vous êtes en face de moi. Il vous faut du temps. Ce temps-là, on ne vous le donne pas. Non seulement on ne veut pas comprendre que la détention vous a coupé de tout et qu'il vous faut revenir au fur et à mesure, ça vous oppresse. Non, on vous oppresse et on ne vous laisse pas revenir au fur et à mesure. C'est ce qui s'est passé avec la Miss. Donc du coup, évidemment, elle n'était pas encore remise de l'intérieur. Donc évidemment, elle tombe plus facilement. Et évidemment, vu qu'elle ne s'entendait pas avec eux, mais évidemment, ils s'en sont servis. Il ne faut pas rêver. Quoi. Mm-hmm. Moi, si tu donnes le bâton pour battre, ils vont battre. Il ne faut pas rêver. Alors oui, ils ne donnent pas le temps pour faire tout ce qu'il y a à faire et tout. Moi, je respectais mes trucs. Je leur dis, je n'ai rien de spécial à leur dire. Hein. Parce que c'était toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes mots. Et on en est où pour ça. Mais pour moi, ça m'est complètement égal. Dans le sens où ce que je fais, moi... je sais exactement de quoi il en retourne. J'ai toujours été battante et combattante. Donc pour aller faire la guerrière à l'intérieur et faire la guerrière à l'extérieur face encore à ces gens-là, moi, ça ne me prend pas de prendre particulier. La seule chose, c'est que dans une guerre, face à soi, on a un ennemi. Sur un champ de bataille, vous avez deux peuples qui vont se combattre. Normalement, des hommes. Là, ce sont des femmes. Car c'est femmes, et des femmes contre des femmes. Donc c'est un peu compliqué, les femmes contre les femmes. Ça, c'est clair. Dedans, c'est compliqué, mais dehors, n'en parlons pas. Mais là, on n'est même pas remis de tout ça, qu'on vous en demande plus que tout le monde, plus que de raison. Quelqu'un dehors, on ne lui demande rien, mais quelqu'un qui sort de détention, on lui demande de constamment montrer patte blanche. Alors que eux, si vous réfléchissez bien, les pattes blanches, ils n'ont jamais eu. Hein. C'est de par leur poste qu'ils ont occupé, qu'ils se retrouvent à avoir, entre guillemets, c'est des ayants droit. Ils se donnent le droit de, faut pas oublier. C'est la seule chose qui se passe. Parce que c'est leur statut, c'est leur poste, c'est la situation dans laquelle ils sont, c'est les personnes qui occupent donc les postes qui se donnent le droit de nous faire. Non seulement c'est pas suffisant tout ce qu'on a subi là-dedans, mais quand on sort pour l'aménagement de peine, encore, psychologiquement, on n'est pas pris, quoi. C'est vrai. Laissez-nous le temps de souffler. Non. Oh, mais la pression. Normal que la Miss, elle pète les plombs. Vous voyez quoi?
Encore voir la SPIP qui peut mettre la pression aussi.
Et puis ça c'est dépend hyper sur quelle SPIP. Elle a raison là-dessus, hein. Ça dépend sur quelle SPIP tu tombes. Moi, entre guillemets, la SPIP, elle travaille là-dedans depuis longtemps, c'est quoi, elle la retourne. Les histoires de logement, c'est ce que c'est. Les histoires de travail. Alors, je sais pas, je dis une connerie pour vous montrer comme quoi je vais exagérer pour que ça marche les esprits. Il y a 10 millions de chômeurs. Et c'est celui qui va sortir de détention qui va trouver le travail. Devant les 10 millions de chômeurs. Je vous avoue que vous avez tous raison. Peuple de la justice. Vous avez raison, peuple de la justice. C'est nous qui avons trouvé du travail alors qu'il y a 10 millions de chômeurs. J'avoue que votre logique, elle est très saine.
C'est clair. Louise, tu voulais dire un truc?
Juste qu'il c'est hyper strict, du genre tu ne veux pas te présenter à un rendez-vous et en fait, il te menace de
retomber tout le temps.
De
quoi.
Retomber tout le temps, de... Je sais pas, ils te disent que c'était fautif de ne pas te présenter, que c'est une forme d'évasion, enfin, ou un truc comme ça, non?
Mais oui, parce qu'en fait, c'est pas que l'évasion. En fait, de pas se présenter à des rendez-vous qu'ils vous ont imposés. C'est pas des rendez-vous qu'on a tous pris avec vous. Ce sont des rendez-vous qu'on vous impose. Ça veut dire qu'on vous dit lundi à 9h ou mardi 10h. Donc on vous impose. Moi, chez moi, on m'a pas dit, voyez, jeudi ou vendredi. Non, lundi ou mardi. Donc, ok, j'y vais. Mais le problème, c'est que si demain vous avez un rendez-vous qu'il vous faut 4 mois pour le prendre, vous arrivez, et bien, même si vous dites, je lui dis juste, excusez-moi, je ne peux pas venir au rendez-vous. Là, c'est carrément c'est la supérieure qui vous appelle et qui vous dit, vous pointez au rendez-vous. Sinon, vous allez avoir les conséquences, quoi. Ça veut dire quoi? J'ai 4 ans, tu m'as mon bout de paix pour manger, j'ai quel âge, quoi? Tu m'infantilises comme on était infantilisé en détention. Mais ils n'ont pas honte. Ouais.
Surtout que pour toi, c'est pas arrangeant, par exemple, parce que ton nouveau SPIP va être à Marseille, alors que ça fait un moment que t'habites plus là. Du coup, faut se déplacer et tout.
Ouais, mais c'est encore, ça va se mettre en route, il faut du temps et tout. Ça, c'est, encore, c'est pas très grave, ça. Quand on s'entend bien avec sa fille, c'est pas très gênant. Ce qui est gênant, c'est de faire, se mettre faire la pression tout le temps, pas comprendre pourquoi on a la pression, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, et est-ce qu'ils n'ont pas une prime hein, pour nous faire tomber dedans, quoi. Parce que moi, 15 jours de ma fin, on me dit, ah mais tiens, s'il n'y a pas, vous ne répondez pas, ben, je vous ferai, j'ai fait tomber des gens, hein, je peux vous refaire tomber. Hein.
C'est clair.
Vous voulez que je fasse quoi de cette personne-là?
Et puis,
je vous
écoute. Dès que tu prends un peu des initiatives et que en fait, tu prends un peu ton émancipation de ça, ils te coupent l'arbre sous le pied. Et par exemple, quand tu trouves un appart, ils te disent, non, ton heure n'est pas venue. Enfin, tant que c'est pas eux qui l'ont décidé, tu peux pas déménager de chez eux. Quoi. Enfin, t'as pas le...
ben, l'histoire, c'est que le placement extérieur, le problème, c'est qu'il incombe d'habiter chez eux. Et entre-temps, il faut demander à une juge ou un juge de vous faire d'enlever le placement extérieur et de vous mettre une autre adresse. Mais le problème, c'est qu'ils se mordent la queue. Trois mois avant, vous ne pouvez pas, c'est trop tôt pour partir du logement. Mais le jour où vous avez fait, vous n'êtes plus sous les contrats de eux, vous devez partir le lendemain avec vos affaires. Donc ça ne colle pas. C'est ou avant, vous ne pouvez pas prendre votre logement, parce qu'il faut être suivi par la PCAS, c'est obligatoire. C'est ce qui est écrit par les juges sur votre décision de justice pour sortir en aménagement de peine, ou par bracelet, ou par n'importe. Hein. Tous les aménagements de peine, c'est ça. Hein. Placement extérieur, ou n'importe quelle condition de sortir. Mais par contre, quand vous trouvez votre logement, on ne vous dit pas, OK, on vous aide à intégrer votre logement. Non. Vous devez rester à l'APCAS. Et après seulement la fin de ça, vous pouvez partir. Sauf que un juge ne va pas changer les papiers au bout de 3 mois. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, ils ont tellement de dossiers sur la table. Vous ne croyez pas quand même qu'ils vont prendre votre... Les dossiers, vous savez très bien qu'ils ont sur la table, durent des mois et des mois. Le mien, il dure même, voire des années. Moi, le mien, il faut le régler en 3 mois. Vous ne croyez pas quand même qu'ils vont régler un truc en 2 mois quand même, non? Réfléchissez tous. C'est tout simple, en fait. Hein. Vous faites une adéquation, vous faites l'équation. J'ai tant de mois qui me restent, je dois partir à telle date. Comment je fais? Mais il n'y a pas de solution. Un juge ne va jamais prendre un dossier à 3 mois avant la fin pour vous dire, voilà, je vous donne notre adresse. Non, vous devez être suivi par la CAF. Vous devez obligatoirement rester là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous enchaîne. J'ai dit, je refusais le boulet à la pâte, je me suis retrouvé quand même dans une autre histoire d'être enchaîné, quoi. J'ai dit, ça n'allait pas mal. Vous ne devez pas quitter le logement. La plupart, je vous le dis bien. Vous ne quittez pas le logement, vous êtes suivi par nous.
Jusqu'à un mois avant, où là, par contre, vous le quittez.
Ben, c'est le jour où vous ne devez plus être là qu'il faut partir avec vos affaires sous les bras. Donc, vous vous retrouvez à la rue. Donc, ça, je trouve ça très adorable de leur part à tout le monde.
Bon, je pense que, je ne sais pas si... On a fait le tour de ce coup de gueule contre APCARS.
Moi, ce n'est pas que l'APCARS. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette manière de fonctionner. Hein. Parce qu'il y a énormément d'associations qui fonctionnent comme l'APCARS, hein. qui travaillent avec la justice et qui ne tiennent pas leur engagement. Hein. Parce que franchement, vous sortez, vous avez des peines, vous n'allez pas bien, il vous faut un suivi, il faut trouver un travail. Là, on passe au tribunal pour un truc, on vous dit, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez retrouvé une formation dans quoi? Vous travaillez dans quoi? Vous avez trouvé un travail? De suite, on vous demande, mais qu'est-ce que vous avez fait, quoi?
Toi, tu as d'autres associations, d'autres trucs comme ça qui se sont comportés de la même manière?
Oui, le monsieur qui habitait mon logement avant moi, il s'est subi la même chose. Okay. Ça veut dire qu'on lui a demandé de partir la veille du lendemain. Il avait trouvé un appartement avec un travail où il devait se déplacer. Eh bien, le fait de ne pas pouvoir faire le dossier chez le juge en très peu de temps, parce que le juge a trop de demandes, il ne passe pas votre demande. Eh bien, l'APCAR s'est obligé de rester là. Du coup, il a perdu son travail. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? L'APCAR s'est retourné contre lui. Ils sont venus le lever, ils l'ont rentré en détention. Alors que le gars, il avait un logement et un travail. Donc, effectivement, ça fait pousser un cri de gueule pour la réinsertion. Donc, ce qu'on dit, les papiers, ce qui est écrit dessus, le blabla qui tiennent, il ne tient pas forcément la route par rapport à ce qu'on subit, nous, derrière, dehors. Alors, je ne dis pas que tout le monde le subit. Parce que, comme je dis, les carpettes, il y en a beaucoup. Moi, je ne suis pas une carpette. Quand je dis blanc, c'est blanc, rouge, c'est rouge. Quand tu n'as pas content... ça va caguer au vent, hein, comme on dit. Ah bah oui, quand t'as pas content, ça va caguer au vent. Hein. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est important de respecter. Ils veulent être respectés, mais qu'ils nous respectent aussi. On est des humains, hein. On n'est pas encore des numéros d'écrou, on n'est pas que des criminels, bien qu'ils nous poussent énormément à l'être, hein, parce que quand ils nous forcent après eux, à mon avis, les gens ils doivent être bien remontés après eux. Je comprends qu'il y en ait qui sont bien remontés, d'ailleurs.
Ouais, Vivi,
pour rebondir sur ce que tu as dit, hein, à un moment, tu disais qu'ils checkaient aussi s'il y avait des gens qui venaient chez toi, notamment, enfin, tu as un lit, une place, par exemple, tu as des pioles. Vigie, elle a raconté que sa piole, elle était minus et que, enfin, en fait, ils te logent. Je sais pas si tu as eu différents logements avec eux, toi, vu que tu es passé dans différents.
En fait, l'histoire, elle est toute bête. Quand vous donnez le studio, vous avez interdiction de recevoir quelqu'un chez vous. La journée, oui, mais dormir quelqu'un chez vous, c'est interdit. Voilà.
Ouais, voilà.
Sauf que si vous avez, moi je sais pas, moi mes enfants sont grands, quand vous avez un enfant qui vient, ben, il faut que je me dépatouille de le faire dormir ailleurs. Et heureusement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été là quand je suis sortie et que la courte échelle et l'envolée et toutes les personnes de Radio Galère ont été là. Parce que franchement, je ne comprends pas comment on me dit de pouvoir refaire des liens avec toute ma famille et de devoir faire dormir mon fils ailleurs. Ok, je vais prendre un hôtel et tout, ça coûte un bras. Heureusement, toutes les personnes qui ont été là depuis le début de ma sortie et bien avant qui me suivaient en détention ont toujours été répondu présent. Sinon, ça ne le faisait pas, quoi. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a un moment ou un autre, ils sont venus vérifier si, parce qu'ils sont dans le contrôle constamment. Évidemment, ils vont venir vérifier si vous avez quelqu'un chez vous. Comme là, quand ils sont rentrés chez moi avec la clé. Alors que je paye un loyer, un conseil d'engagement, et je paye une PAF, une participation aux frais, de 10% de mes revenus, je me retrouve encore à être poursuivi comme je sais pas quoi. Mais c'est débile, quoi. On comprend pas. Moi, personnellement, j'essaye de comprendre.
Mais oui, c'est sûr que la sortie et comment elle se passe, ça, c'est aussi conditionné à quel point tu connais des personnes à l'extérieur. C'est sûr que si tu sors d'une longue peine, en plus parfois dans une ville que tu connais pas parce que tu as été transféré dans une autre ville et que ça fait longtemps que tu es en prison et que tu as un peu moins de contacts, c'est tout de suite beaucoup plus dur, quoi.
Il y a beaucoup de gens qui ne retrouvent plus leurs repères et qui n'ont plus personne. Toutes les familles lâchent des personnes qui ont des grosses dans leur peine. Après, même ceux qui ont leur famille, vous ne pouvez pas faire une énorme détention du jour au lendemain, retourner dans votre famille, vivre comme si de rien n'était. Mais ça n'existe pas. Tout à l'heure, je vous ai bien expliqué qu'il fallait du temps pour revenir à la réalité, dehors et tout, pour vous rencontrer vous comme vous êtes. Les gens qui sont bien posés chez eux, avec leur train-train, etc., vous imaginez 30 minutes de temps quand moi je débarque quelque part? C'est impossible, c'est impossible. Mais c'est un tremblement de terre pour les gens. Il n'y a rien qui est normal, quoi. Moi, en détention, à 5h du matin, je mets des coups de pied dans la porte pour vous réveiller, voir si vous êtes morte ou vivante. Donc, vous imaginez, vous êtes réveillé à 5h du matin. Donc, moi, la nuit, 5h du matin, j'ai deux billes, je saute en sursaut. Donc, imaginez si je fais ça chez mes enfants, ils m'entendent crier dans la chambre. À 5h du matin, ils dorment. Ils ne veulent pas comprendre. Et voilà, donc il y a plein de choses qui ne vont pas.
Oui, ça c'est ce qu'on répète à chaque fois, à chaque émission, c'est pas juste que les personnes sont pas compatibles avec la société, c'est que faire des peines à force, ça fait que tu l'es plus, quoi. C'est la prison qui désinsère.
C'est réglé comme du papier à musique. Entre nos fers, entre nos silences, entre nos douleurs névralgiques, entre nos guerres de primates, entre chacal et babouin. Abois, fais peur, toi le cerbère du chagrin. Entre les portes à garder, porte le brassard comme un chéchia rouge. Un ordre, un coup de fouet et bouge. C'est toujours le même prisme, toujours le même putain de pessimisme. Derrière le cynisme d'une brosse à reluire, entre les poubelles à sortir, reste des chantiers à construire. À coup de parpaing dans la gueule plutôt, entre nos ghettos, entre nos rapports brutaux, gravés dans les gènes au couteau. ADN crucifié, à quel animal se fier? Y'a que pour mourir sous le drapeau que t'es qualifié. Ce sourire, ce rythme dans la peau, sur le chemin des caféiers, clandestin jusqu'au foyer, noyé dans le noyau d'une machinerie, entre les griffes d'une galère, entre l'envie d'une mutinerie, derrière la paille et le crottin d'une écurie. Poulet armé, pas bio, ni d'acati, ni curie. Hémoglobine et sanglots, y'a quelque chose de goré, y'a rien à commémorer, la cage n'est même pas dorée. Derrière l'urgence d'une intelligence volontaire, d'un profilage à la lueur des lanternes, d'un climat délétère, entre ces murs, entre ces barrières, entre ces peines qu'on écope, entre les draps. Entre nous, comment rester propre? Ce monde, cette bouche, ce cul de bâtard.
place fausse. Cette ville, son or, ses putes en carrosse. Cette arène, ses pauvres, ses princes sous escorte. Cette tôle, ses algorithmes, ses mouchards qui écoutent aux portes. Cette nasse, ses noyés, ses brûlés, ses fantômes. Ce terrain, cette orgie de psychotropes ouvertes aux mômes. Ce miroir, ses mirages, ses hypnoses sans réveil. Mais plonger dans ce fleuve et ma thune sèche au soleil. Ces vertus qui ne valent rien et ces vices que j'endosse. Ces femmes, ces formes, cette chair, ce cosmos. Mes créances, mes prêteurs, mes yeux derrière l'épaule. Cette envie de tuer quand la parano m'immole. Mon âme, mon amour, prendras-tu soin de mes os. De mes cocards, mes colères, mes chemises de guerriers. La nuit est tombée dehors, derrière les rideaux. Je repars au charbon, façon méduse et radeau. Cette course, ces pièges, ces vainqueurs aux dents blanches. Ces morts de faim, ces pillards, et mes jambes qui flanchent. Ce dédale, son pognon, ces cloisons étanches. Ce trou, ces fous, ces damnés, et ma soif de revanche. Je me tire avec mon magot, ils ont fermé la frontière. Un barrage un peu plus haut, je prends la route en marche arrière. Je me crache dans la glissière, c'était pas dans l'horoscope. Comment pas se faire mettre les fers? Comment rester propre? Ça pue, ça craint, encore un temps de chien. Ça parle pour rien, et sur le terre-plein. Un banc, un flash, un Vélib sans frein. Au four, pas au moulin, à quelques mètres plus loin. Perdu au milieu, un jet d'eau miteux. Qui pisse les jours d'armistice ou les 21 juin. Quand sous nos yeux, la pauvreté venue de l'Est ne recule devant rien. Du 1er janvier à la Saint-Sylvestre. Sur les côtes, les reins, du genre touriste, look d'Australien. D'humeur au selfie, au bras d'une belle fille. Tu parles en quelle langue? Sale pute, sale chouin. Tsou, tiens, la bouche sale comme une poubelle percée. Les mains sales sur des faux talpins qui partent chez l'épicier. À 10 sur le cul d'un joint, d'attendre la seconde guerre. Même pas 16 piges, déjà la gueule de tes intestins. L'haleine d'un cimetière. C'est quelques âmes en peine ou à peine des âmes sur un bout de terrain. Entre la bouche de métro, le kiosque et le marchand de gaufres. Et quelques disques évarques qui ont la raide noire qui chauffe. Ici rien ne t'appartient, tu peux tirer des pipes aux équipes d'anciens. Revendiquer le même groupe sanguin, à l'âge où tu crains les chatouilles. Car au contact de la rouille, la plaie, qui chaque jour que Dieu fait, à vif, profonde, purulente, s'infecte, assume ce qu'elle est. Tant que le virus n'entame pas le fœtus d'un pouvoir qui marche en paix. Même à feu, à sang, tout sera toujours fait pour sauver le cul de 2% de Français. Quant aux autres, ils peuvent se baiser entre eux. Mais à 100 milieux de la salle des coffres. Puisque les grandes fortunes sont faites d'infamie et les petites de saleté. Comment rester propre?
Donc ouais, donc c'était l'enregistrement de Nin, bah on n'a pas trop le temps de rebondir dessus et tout ça, mais donc on passe très rapidement au coucou.
Ouais, donc on va faire un big up à Aurélie, à Fabrice, à Kémy, à l'infâme, à Vivi, à Zouzou, au déporté Kanak, à Pascal, à Blanche, à Julien et à Skeeters, et surtout à tous les prisonniers et toutes les prisonnières et à leurs proches.
Force, courage et détermination.
Et il n'y a pas d'arrangement.
Rediffusion mercredi matin 8h30.
Yeah, yeah, tu veux attraper le succès. Tu t'es trompé, je suis le pire à pas. Tu sais, je rappe ce que j'ai pu subir. Et un seul son suffira pas. Tu fuiras pas parce que c'est trop sombre. Tu vas trop songer, je rencrade n'importe quel gros son. Je rappe pour ôter le boxon que j'ai dans le crâne. Je peux pas me contenter d'attendre. Mais t'en craques sous le poids des péchés. Je sens poser sur ma tempe. Le temps braque et je dois me dépêcher. Lutte pour oublier que mon avenir paraissait désastreux. Je suis venu t'oublier, je suis pas venu caresser tes instrus. Et sur les ondes, j'entends ce que les autres font pour les thunes, ça m'a pas. Plus de raison, la meilleure chanteuse d'Europe est une femme à part.
Il devient le travesti le plus célèbre de Rose. Conchita, 26 ans, soulève fièrement le trophée de la victoire de l'Eurovision.
Le match est truqué, mais je sais que ma team peut encore se qualifier. Parle pas de rétablir le score, je rappe le cœur et le corps scarifié. Ça m'aide à clarifier mes idées sombres. Je décime des samples à ne pas confondre. Suffit pas de contempler les profondeurs, mais d'y descendre. Je suis ni c'est ni descend, ni à l'ancien ni récent. Et tout est gris, même quand c'est le bris, mec, dans ma tête c'est mis des ans. Dans ma tête, tout est sombre, tu pourrais même pas voir le sun. L'état fait que nous descendre, frère, je peux qu'avoir le sun. Peut-être qu'un jour je serai plus décent et que tu me verras boire seul. Je m'arrache dans tous mes sons, excusez ma noirceur. Dans ma tête, tout est sombre, tu pourrais même pas voir le sun. L'état fait nous descendre, frère, je peux qu'avoir le sun. Peut-être qu'un jour je serai plus décent et que tu me verras boire seul. Je m'arrache dans tous mes sons, excusez ma noirceur. J'accède, c'est mes tripes, pas moins. J'ai mis l'exemple en chez ma dream. Et un chez électrique, pas loin. Si tu me vois brancher Marine, on va pas se fier à leur loi. Est-ce que c'est con de l'état veulent? Ça finira en vendetta vu que ce monde est aveugle. Et j'avoue, je compte plus jaloux, le truc de fou frère, tu flippes. Le succès n'est qu'un pied jaloux, donc je me fous de faire du fric. Et ouais, écoute, pour rester cool, des proches m'attraquent, je te l'explique. J'ai pris des coups, je te mets en garde. Écoute chaque track, te l'expliquer. Donc monte le caisson, sans la pression. À chaque rire que je crie, qu'elles sont puissantes dans cette opus. L'auditeur frappe, ton le tri donne un beat rapide, je le plie. Hey. Et sache que je resterai le même et ça peu importe le prix. C'est la crabe, c'est la toine, on sait pas Snoop et Pharrell. On traîne tous les jours, nos soucis, mais toi et nous c'est pareil. Bref ici, bah rien n'est simple, un conseil, barre-toi mec. N'ont pas besoin de faire un dessin, tu verras par toi-même.
Donc on va commencer avec le Front National qui fait 30% dans notre beau pays, bordel de merde. Ah ouais mais sa vie c'est pas pareil, c'est pas pareil. Si tu fais confiance au profil psychologique d'une meuf dont on le perd. Par le courage de Pétain à celui de De Gaulle et dont la mère pose à poil à 40 piges dans Playboy en train de passer l'aspirateur, c'est ton choix, je respecte même si c'est folklorique.
Dans ma tête, tout est sombre, tu pourrais même pas voir le sun. L'état fait que nous descendre, frère, je peux qu'avoir le sun. Peut-être qu'un jour je serai plus décent et que tu me verras boire seul. Je m'arrache dans tous mes sons, excusez ma noirceur. Dans ma tête, tout est sombre, tu pourrais même pas voir le sun. L'état fait que nous descendre, frère, je peux qu'avoir le sun. Peut-être qu'un jour je serai plus décent et que tu me verras boire seul. Je m'arrache dans tous mes sons, excusez ma noirceur. Je me fous que ça jacte, flow cardiaque, je viens faire sauter vos détecteurs. Ne demande pas à un cardiaque s'il fait les choses de gaieté de cœur. En dépression, je me torture, j'ai le moral en piteux état. On fait des sessions nocturne et je dors plus sans split de cette là. Et la colère une drogue dure. Ne crois pas que tout c'est la montée. Dans mes collègues y'a pas tant de tous, n'ont pas le temps de tout se lamenter. Et je vais pas compter sur le rap pour remplir mon est dans ma vie. Je vais pas me soucier du nombre de vues ou combien me connaissent dans ma ville. Parce que t'es haineux à piquer pour rien de m'enchante. Tu défaitiste petit, tu ferais mieux de la quitter. La rue n'enchante que des fétrices, des fêtrisettes. Vous les rappeurs qui prenez la star attitude. Pas ta soupe polie dans mes clips. Ici trop de mescar l'attitude, mon arrêt. Entremêler les mots et faire passer le message. Connard, je vais pas engrainer les mots. Ma part à rester sage, encore c'est de la pu. Bon faut que je te laisse les porches vides, dur d'être adulte. Je me remets à peine de ma jeunesse écorchée vive. Dans ma tête tout est sombre, tu pourrais même pas voir le sun. L'état fait que nous descendre, frère je peux qu'avoir le sun. Peut-être qu'un jour je serai plus décent et que tu me verras boire seul. Je m'arrache dans tous mes sons, excusez ma noirceur. Dans ma tête tout est sombre, tu pourrais même pas voir le sun. L'état fait que nous descendre, frère je peux qu'avoir le sun. Peut-être qu'un jour je serai plus décent et que tu me verras boire seul. Je m'arrache dans tous mes sons, excusez ma noirceur.